Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, nous avons été tous témoins de la présidentielle française et le changement qui devra suivre bien sûr, mais ce qui a retenu en définitive notre attention, ces deux phrases prononcées par le nouveau président, M. François Hollande, une fois sa victoire a été déclarée. Donc ces deux phrases que nous allons citer dans quelques instants donnent la priorité à deux enjeux politiques qui nécessitent une grande réflexion de notre part et voir les priorités des choix de politiciens engagés correctement dans une voie prometteuse. Donc le nouveau président avait rappelé le peuple français de son engagement prioritaire, la justice et la jeunesse. Alors maintenant je cite les paroles de ce dernier. Je suis le président de la justice, je suis le président de la jeunesse. Et justement, la politique de son prédécesseur, qui a semé plutôt de la peur et la panique chez les citoyens français, n'a pas tenu la route très longtemps. Maintenant, pourquoi le nouveau président socialiste François Hollande mise sur deux enjeux politiques dès le début de sa présidentielle? La justice et bien sûr la jeunesse. Donc la réponse, vous la reconnaissez, chères auditrices, chers auditeurs, tous. Donc elle est d'ailleurs très simple, une société moderne ne peut malheureusement fonctionner en absence de la justice. La justice est le pilier fondamental sur quoi tout se repose. Alors ne badinez pas avec cet enjeu. Et la jeunesse, c'est la survie de la société elle-même. Et bien sûr, si vous négligez l'un des deux, vous avez tort. Alors le président sortant l'avait reconnu et il assume sa défaite, une défaite, à notre avis, sincèrement méritée. Alors maintenant, revenons à notre Québec et voir quelle position justement occupe-t-elle la justice et la jeunesse dans notre société. Alors le bilan qui se trouve en face de nous est désastreux. Une répression planifiée à la lettre de la part du gouvernement et l'impasse chaotique, pour dire de plus belle. La jeunesse n'est pas du tout entendue, encore moins considérée et surtout rejeté de la table de toute négociation. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes rendus à ce stade alors que la politique est faite justement pour ne pas se rendre à ce point de non-retour? Il faut reconnaître aussi qu'il n'y a aucune phase de ressemblance dans la politique française et celle du Québec, et ça sera un peu trop risqué de tenter un tel exercice. La politique de Québec est malheureusement depuis quelques années, elle présente un échec qui donne des frissons. Les libéraux qui suivent Jean Charest dans sa glissade savent très bien que leur chef a déjà perdu et depuis quelque temps maintenant la confiance de ses concitoyens, trop hypocrites à leurs yeux, quasiment inactifs devant les situations de crise, encore plus orgueilleux que nous le pensons, ne sont vraisemblablement dans le chaos politique. Et Jean Charest est un homme rusé, malin, il joue avec les sentiments des citoyens, faisant la victime par excellence, alors que c'est lui et lui tout seul responsable de cette situation critique qui dégénère jour après jour. Lui seul, je dis bien, avec son orgueil farfelueux, traîne la société québécoise vers l'inconnu et justement un tel risque accentué ne devra pas exister dans la ligne de mire d'un politicien qui veille sur la stabilité et la sécurité des citoyens. Cette zone de turbulence politique, sociale et maintenant économique, vous avez constaté hier l'arrêt des lignes de métro à Montréal et les conséquences qui ont suivi, ce constat justement dure depuis longtemps et les citoyens en ras-le-bol. Maintenant, plus de 180 manifestations en 3 mois. C'est du jamais vu, des centaines d'arrestations dont la plupart sont des arrestations illégales, des blessés graves et moins graves, la frustration public atteint son plus haut degré et le gouvernement n'a rien fait ou n'a rien à offrir. Sinon, l'attente et la répression dans toutes ses formes. Après le dénouement de cette crise, espérons-le, sans violence aggravante, une chose est certaine. Les gens garderont, et surtout la jeunesse garderont des séquelles et des mépris à l'égard de ce gouvernement aussi longtemps que possible. Alors vous voyez que si la jeunesse québécoise sont à l'abri d'un risque éventuel qui peut bien sûr avoir des conséquences néfastes dans l'avenir proche et lointain, ni la justice boiteuse qui fait énormément défaut ici au Québec, la violation des droits de la personne est alarmante au titre d'une société moderne comme la nôtre. Finalement, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un tableau un peu sombre de notre quotidien, mais le réel est encore plus sombre que vous pouvez l'imaginer. Si le sentiment que nous avons ce matin à vous communiquer, chères auditrices, chers auditeurs. Notre tristesse est énorme et autant que militants et citoyens, nous confirmons que le Québec est gouverné par des gens qui sont tout à fait loin d'être à la hauteur de gouverner. Un peuple aussi pacifique, aussi ouvert, aussi intelligent, mais malheureusement des fois un peu trop naïf. Ça nous triste pleinement de vivre dans une démocratie terrifiante où le plus fort a toujours le dernier mot, où le peuple a toujours tort et le gouvernement a toujours raison. Et ce qui nous triste encore plus, c'est que nous ne voyons pas autour de ce gouvernement quelqu'un plus rassurant que d'autres. Mais permettez-moi, en fin de cette trajectoire, de vous faire une confidence sincère, encourageante peut-être. C'est que parmi ces étudiants qui manifestent ces jours dans les villes de notre province et à qui le gouvernement refuse réellement le dialogue, nous apercevons une lueur remplie d'espoir et de promesses. Alors tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, chers auditrices, chers auditeurs, c'est de tendre la main à ces jeunes qui feront sûrement la fierté de cette province, de cette nation, demain. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Toujours fidèle avec moi dans cette émission, j'ai mon collègue Roland Cazès, un militant parfois désespéré de voir à quel point notre jeunesse est fortement écrasée. Nous avons également dans le studio ce matin deux jeunes frères montréalais. Ils viennent d'un milieu très défavorisé. Voilà pourquoi peut-être ils n'ont pas eu la chance de réaliser leur rêve. L'un de ces deux frères, vous allez voir, il porte des blessures, des coups et un parcours aussi très difficile. Donc dans une politique, si vous voulez, que rejette inconsciemment l'énergie de la jeunesse québécoise. Une jeunesse qui devra être traitée sur le même pied d'égalité et avoir les mêmes chances de réussite. Dans le cas que nous avons devant nous ce matin, nous écartons de cette règle pour foncer dans le réel, dans la vérité des choses. Nous vivons, ou plutôt nous vous invitons, chers auditeurs, d'écouter le témoignage d'un jeune Montréalais qui a préféré venir vers vous, chers auditeurs, pour dénoncer une certaine négligence de l'autorité à son égard. Avant de passer à l'écoute à notre thème musical, je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que si vous êtes victime ou témoin d'abus de pouvoir ou d'injustice et vous souhaitez le dénoncer sur ces ondes, vous pouvez toujours nous rappeler à 514-273-4302, je répète 273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Nos invités aujourd'hui sont Calais Fontaine, 21 ans, et son frère Olivier, 20 ans. Restez à l'écoute, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la force. en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à l'une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à l'œil.
Voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. J'ai devant moi deux jeunes frères, Cali Fontaine, 21 ans, et Cali et Olivier Fontaine, c'est ça, 20 ans. Avant de céder la parole à ces deux invités, j'aimerais bien demander à Monsieur Roland Cazès, il avait quelque chose à dire à propos des étudiants. Roland.
Moi, après avoir vu tous les événements qui sont arrivés, puis tout ce qu'on met sur le dos des étudiants et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on dit, je m'explique. Je demande, est-ce qu'il y aurait des journalistes d'enquête qui seraient capables de nous sortir les dépenses des universités de Montréal, en particulier notre université de langue française? Pourquoi? Parce que j'ai découvert, moi, des sommes d'argent exorbitantes dépensées inutilement sur le dos des étudiants à des fins sportives ou autres, ou des amitiés, ou pour avoir des billets de loge, de hockey, et ainsi de suite.
Mais il y aurait une enquête.
Alors, je demande aux journalistes d'enquête de se réveiller et à enquête à Radio-Canada, là, c'est le moment ou jamais de faire une belle enquête là-dessus. Ouais. Il faut renseigner le monde et arrêter de mettre tout sur le dos des jeunes qui veulent évoluer. C'est une évolution, puis nous avons des gouvernements qui veulent freiner cette évolution. Les jeunes veulent avoir accès aux cours définitivement et avoir des études. Et là, on leur met tout sur leur dos. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a une vache qui a eu un petit veau avec deux têtes. C'est pas de la faute de Nadeau Dubois.
Oui.
Voilà. Une fois pour toutes, il faut arrêter de lui mettre tout sur le dos.
Voilà. Alors, merci Roland pour votre intervention et j'aimerais bien directement céder la parole à deux jeunes que eux, ils n'ont pas eu la chance malheureusement d'étudier et vous allez voir dans des circonstances un petit peu nébuleuses. Donc, bonjour Monsieur Kelly Fontaine, merci d'être ici dans le studio de Radio Centre-Ville et merci aussi d'avoir eu le courage de venir dénoncer ce que vous pensez que c'est une négligence de la part de l'ASPVM, c'est ça? Exactement.
Oui, c'est ça,
revenons, avant de commencer directement rentrant dans l'histoire, j'aimerais bien savoir, vous êtes arrivé ici à Montréal à quel âge?
À l'âge de 6 ans.
Vous êtes arrivé ici à l'âge de 6 ans, oui, avec votre frère qui est à côté de moi, Olivier, qui a maintenant 20 ans, et lui, il est arrivé à l'âge de 4 ans, c'est ça?
Exactement.
Et vous êtes arrivé accompagné de qui?
Je suis arrivé accompagné de ma mère.
De votre mère. Et j'imagine que le père était déjà séparé d'avance.
Oui. Exactement.
Il est séparé. Et après ça, vous avez eu un frère et une sœur qui sont nés ici au Québec.
Oui.
C'est exact?
Et c'est
oui.
Exact.
Est-ce que j'ai compris bien aussi, votre mère a toujours travaillé. Ok.
Effectivement.
Votre mère, je salue d'ici Madame Olivier de notre part. Votre mère, Madame Olivier, elle a toujours travaillé pour essayer de garantir un petit peu une éducation et une bonne éducation, c'est ça?
C'est en effet.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé dans vous?
M'excuse, elle travaillait dans quelle branche?
Elle faisait quoi?
Elle travaillait comme gardienne de sécurité.
Elle travaillait comme gardienne de sécurité.
Comme gardienne de sécurité.
Exactement.
Gardienne de sécurité, oui. Et donc, Donc tout ça a été super bien. Donc vous étiez à l'école, vous et votre frère et vous et sœur et tout. Tout ça marchait super bien. Jusqu'à l'âge où vous avez eu à peu près environ à 16 ans à peu près.
Exactement.
Les choses se sont complètement basculées.
Tout a basculé.
Ouais. Pouvez-vous nous expliquer ou expliquer plutôt aux auditeurs qu'est-ce qui est arrivé?
Bon, ben à l'âge de 16 ans, un ami est venu me chercher chez moi pour aller visiter un appartement.
Mais vous, à ce moment-là, vous habitez sur le plateau, j'imagine, Mont-Royal?
Oui, soit à ce moment-là, je vivais au plateau Mont-Royal.
Okay.
Chez votre mère?
Chez ma mère, chez exactement.
Avec,
avec ma mère.
Et vous allez à la Chine avec un ami pour visiter
un appartement, exactement.
Ah, c'était à quelle heure?
On était rendu sûrement dans 3 heures, vers les 3 heures.
3 heures de l'après-midi.
3 heures de l'après-midi,
voilà,
exactement.
Vous avez 16 ans, vous déplacez, vous allez avec quelqu'un à la Chine pour visiter un appartement. Et c'était quoi l'événement? Qu'est-ce qu'il y a eu comme un événement?
Bon, ben, par la suite du visite à l'appart, je m'en allais rentrer chez moi.
Oui.
Je me dirigeais pour
revenir chez vous.
Pour prendre l'autobus pour rentrer chez moi.
Rentrer chez vous, oui, normal, oui.
En chemin, j'ai croisé deux individus.
Oui. Que vous connaissez?
Non.
Vous l'avez jamais vu?
Jamais vu de toute ma vie.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux personnes?
Bon, ces deux personnes se sont approchées vers moi et mes amis.
Ouais. Ton ami ou mes amis? Parce que vous m'avez dit une fois...
j'étais avec un ami.
Okay, c'est ça. Et toi et ton ami, oui?
Exactement. Ils se sont approchés et a demandé à mon ami une cigarette.
Ils ont demandé une cigarette à votre
ami? Exactement. Mon ami les a répondu que non, il n'a pas de cigarette.
Il n'avait pas de cigarette, oui.
Exact.
OK.
Les deux jeunes hommes en question sont repartis.
Oui.
Et par la suite, en marchant pour aller prendre l'autobus, nous avons croisé, moi et mes amis, on a croisé un groupe de jeunes, environ...
Pourquoi vous disiez moi et mes amis? Vous
parce
et votre ami?
Parce que je marchais avec mon ami.
C'est ça, parce que vous disiez mes amis.
Ouais.
OK. Donc, vous retournez avec votre ami à l'autobus et vous avez croisé un groupe de
exactement.
Jeunes.
Exactement. J'ai croisé un groupe de jeunes.
Oui.
Et l'un d'entre ces groupes de jeunes-là...
Oui.
Est venu en courant vers moi avec une arme à feu
Et vous a tiré.
Et m'a tiré, exactement.
Ah, okay. Alors, ce jeune-là, vous ne l'avez jamais vu. Et ce groupe-là, vous ne les avez jamais vu.
Jamais vu.
Et vous aviez l'âge de 16 ans. Vous
exactement.
16 ans. Alors, c'est quoi? Ils vous ont tiré? Ils ont tiré à quel lieu?
Le jeune a tiré à 3 reprises.
À 3 reprises, sur vous?
Je ne sais pas si c'est un jeune ou monsieur. Moi.
Mais vous l'avez vu, celui qui vous a tiré?
J'ai vu l'arme à feu. Mais je n'ai pas vu le visage parce que le monsieur était masqué.
Ah, il avait un masque sur lui.
Oui, exactement, il était masqué.
Donc, il tire sur vous.
Exact.
Et vous vous retrouvez à l'hôpital, j'imagine?
Je me retrouve à l'hôpital.
Oui.
Le masque, c'était un foulard. Hein?
Quelque chose de noir sur la face.
Oui.
Exactement.
Okay. Alors, le plus rapide, donc, vous allez à l'hôpital, il y a une intervention chirurgicale, vous avez quoi?
Ils ont dû refaire mon abdomen.
Au complet.
Ouais.
Vous avez perdu une rate, j'imagine aussi?
Ils ont enlevé ma rate parce que la balle a fracturé ma rate. Ouais. Le docteur a dû l'enlever. J'ai eu un trou dans mes reins. Que la balle a fait un trou à mon rein gauche.
Ouais.
Donc, pendant une semaine, je pissais du sang qui coulait par mon urine. Et grâce à Dieu, par miracle, le trou dans mon rein s'est refermé.
Tout seul?
Tout seul.
Oui, oui, oui. Vous avez... C'est jeune, hein?
Exact.
Et vous avez reçu aussi une autre balle dans le dos?
J'ai reçu une balle dans le dos.
Oui.
Celui-ci s'est logé dans mes artères.
Oui. Et jusqu'à présent, il est toujours logé dans vos artères.
Exactement.
Le médecin a préféré de ne pas l'enlever.
Le médecin... que je dois remercier de m'avoir sauvé la vie en ce moment-là.
Oui.
A fait une belle job, sa job de docteur.
Oui.
A préféré de le laisser dans mon dos pour m'éviter la paralysation.
Oui. La paralysie.
La paralysie, oui.
Oui.
Alors, je comprends que maintenant, vous restez en convalescence à l'hôpital combien de temps? Après ça, vous rentrez chez vous, c'est ça?
Exactement.
C'est quoi l'impact sur votre mère?
Waouh, l'impact sur ma mère.
Vous êtes resté très longtemps à l'hôpital quand même.
2 semaines et demie à peu près.
2 semaines et demie, ouais.
Ok. Alors vous sortez, vous êtes chez vous à la maison, quel était l'impact? Parce que vous m'avez dit hors les ondes, comme quoi votre mère, elle a laissé le travail, elle ne travaille plus.
Exactement, elle a dû laisser son emploi.
Oui, oui.
parce que elle devait consacrer tout son temps à moi qui étais blessé, infirme, qui bougeait pas beaucoup.
Ouais.
De plus, avec mes trois autres petits frères.
Tout à fait, ouais, ouais.
Ça n'a pas été facile.
Pas facile du tout, oui.
Exactement, monsieur. Parce
et vous, vous avez abandonné aussi vos études suite à cet événement?
À cet événement, j'ai dû abandonner l'étude pendant un an.
Oui, oui.
Après ça, j'ai essayé de retourner aux études parce que j'ai pas pu être concentré. Ma tête n'était plus là. Vous voyez, depuis que ce jour, depuis que j'ai eu cet événement, ma tête n'était plus là.
Dans une seconde, je parle à Olivier. Olivier, vous aussi, c'est-à-dire ce constat, vous avez vu que vous aussi, parce que vous avez eu 15 ans à cet âge-là aussi. Hein. Donc, comment vous avez senti, comment vous avez vécu tout ça, vous? Vous êtes le frère de Kenley. Hein.
Très difficile.
Vous-même, vous avez abandonné vos études?
Oui, misère à rester aux études.
Oui.
Misère à dormir, bouleverse, pleurs.
Ouais. Mmh. Oui.
Très, très
difficile. C'était difficile de voir votre frère comme ça. Je reviens maintenant
à... Jusqu'à date encore, c'est encore très difficile.
À accepter tout ça.
Accepter tout ça.
Mais vous n'avez pas de contact avec ces jeunes de ce groupe
Non.
Pas du tout. Vous ne le connaissez pas. D'ailleurs,
non.
C'est en la Chine, c'est un petit peu loin et tout. Maintenant, je veux savoir, quelle était l'intervention policière? Qu'est-ce que le SPVM, ils ont fait dans votre dossier? Parce que c'est ça ce que vous reprochez aujourd'hui, hein, c'est ça?
Exactement.
Oui.
En définitive, moi je m'excuse, je vais vous interrompre avant que vous continuiez. Vous avez été victime d'un acte criminel.
Exactement.
Voilà le terme qu'on emploie lorsqu'une personne est blessée dans la rue comme ça. Vous rentrez dans la catégorie des...
Acte criminel.
Exactement.
Victime d'acte criminel.
Justement, je veux savoir qu'est-ce que les policiers SPVM y a fait, a réalisé dans votre dossier jusqu'à présent.
À date, jusqu'à présent, je remarque que rien n'a été fait.
Alors, il faut bien souligner que l'enquêteur qui était dans le dossier, c'était M. Donald Sampson.
Exactement, Donald Sampson.
Donald Sampson, il est présentement et devenu maintenant superviseur. C'est lui qui a traité ce dossier-là depuis 5 ans. Et vous avez communiqué avec lui hier, c'est ça?
Exactement.
Vous avez parlé avec lui hier.
Il y a quelque chose que je voudrais dire. Étant mineur, théoriquement, ça concernait vos parents, votre mère.
Exactement.
Parce que vous étiez mineur.
Oui.
Mais à présent, vous êtes majeur. Et là, vous réclamez des choses qui ne vous ont pas acceptées dans ce temps-là.
Exactement, monsieur.
Parce que maintenant, vous êtes majeur, vous êtes capable de vous défendre tout seul. Mais avant, vous dépendiez de votre mère et vous deviez obéissance
à votre
mère.
Tout à fait.
Oui, mais attention, Roland, parce qu'il y a une chose importante aussi, c'est que ce qu'il dit, que de l'âge de 16 ans, le policier, il est venu vous voir après à l'hôpital.
Le policier est venu me voir à l'hôpital, m'a demandé si je pouvais identifier quelqu'un.
Oui.
Je lui ai répondu... Oui. Et que
pourquoi j'avais... vous avez dit oui alors que le monsieur, il avait les...
Non, je lui ai répondu que il y avait les deux jeunes hommes qui sont venus...
Ah, les premiers.
Les deux jeunes hommes qui sont venus me demander...
Vous pouvez les identifier.
Exact. Ouais. Qui sont venus me demander...
Une cigarette.
Ouais. Ça, c'est possible.
Ils étaient là à côté du jeune homme qui est venu me tirer.
Donc, ils étaient parmi le groupe.
Exactement.
Pour vous, c'était possible de les identifier.
Oui, pour moi, c'était possible de l'identifier.
Alors, le policier vient me voir à l'hôpital. Donc, il vous pose la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un et tout. Et après cette visite-là, est-ce qu'il est revenu vous voir?
Après cette visite-là, il est revenu me voir une fois à la maison.
Combien de temps après la première visite?
Ça a dû prendre environ un bon trois semaines, un mois.
Trois semaines, un mois. Il vient vous voir à la maison.
Exact.
Oui. Qu'est-ce qu'il est venu voir? Pourquoi?
Pour me montrer
une parade de photos?
Une parade de photos.
Oui.
De portraits.
Et est-ce que vous avez réussi à identifier quelqu'un sur la parade?
J'ai pas réussi à identifier une personne sur la parade.
Parce que les personnes en question, ils n'étaient pas sur le...
Exactement. Ouais. Les photos qu'ils me montraient n'étaient pas les gens qui étaient là.
Ok, voilà. Après cette visite-là, est-ce que c'est toujours, on parle toujours de l'enquêteur Donald Sampson, c'est ça?
Exactement.
Et après cette deuxième visite, est-ce qu'il est revenu vous voir?
Non.
En aucun moment. Est-ce qu'il a communiqué, rentré en communication avec votre mère?
Non plus.
En aucun moment.
Est-ce qu'il faisait partie d'un poste de police en particulier, d'une section policière?
Je ne le sais pas.
Vous avez 16 ans. Je comprends que votre mère, elle n'a pas fait de démarche parce qu'elle vivait un petit peu l'ignorance. Elle ne savait pas quoi faire.
C'est un choc.
Il y a trop de problèmes avec aussi 4 enfants.
C'est vraiment un choc.
Elle est restée réservée sur elle-même,
elle a consacré tout son temps à moi et à...
Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'après ces deux visites-là, l'enquêteur en question, ou bien l'SPVM, personne d'autre qui est venu vous voir.
Non. Personne d'autre.
OK. Et on vous laisse, c'est ça?
Exactement, on me laisse comme ça.
On vous laisse. Alors écoutez, on va juste prendre une pause musicale, on va revenir, on va écouter l'enregistrement. Donc il y a M. Calais Fontaine, après 5 ans, il communique avec son enquêteur pour lui demander qu'est-ce qui se passe dans son dossier. Vous comprenez aussi que tout ce temps-là, vous avez posé la question, on va lui poser la question à M. Calais, pourquoi il est resté tout ce temps-là sans réaction jusqu'à hier? On va prendre une pause musicale et on revient à la suite de l'événement.
Moi, je suis né dans la misère, j'ai vu l'espoir se pendre. J'ai pris des forces, j'ai dit au boss de moi un bout de viande. Il m'a dit, ferme ta gueule, travaille ou sinon je t'étripe. Fait qu'avec mes 12 tribus, on s'est enfui d'Égypte. On a partagé nos malheurs en guise de repas. Puis j'ai parlé d'une vie meilleure à ceux qui y croient pas. Effectivement, on m'a pas cru, on m'a même renié. Même une fois, on m'a vendu pour à peine 30 deniers. Mais je suis encore revenu, puis j'ai poursuivi ma lutte sous la bannière d'une étoile et d'un croissant de la lune. Du passé au futur, moi j'ai toujours eu le même but. J'te l'avoue, t'es un ennemi si un jour tu m'aimes plus. J'ai trop souffert, on m'a déraciné de ma terre natale vers un nouveau monde enchaîné à fond de cale. Mais je me suis nourri de ma haine, j'ai pas attendu qu'on m'aide. Arrivé à Saint-Domingue, j'ai abattu mon maître. Comme j'ai buté mon roi, j'ai imposé la terreur. Je suis allé un peu loin, le peuple m'a rappelé mon erreur. On m'a guillotiné, je le méritais peut-être. Dans ma soif de vengeance, j'ai pris d'innocentes têtes. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant encore plus fort que hier. Face au poids de l'injustice, toujours aussi pesant. Un jour j'ai brandi un drapeau rouge comme le sang. Je me suis propagé comme le vent à travers les taudis. J'ai annoncé un terme au temps des colonies. Je me suis présenté, coiffé d'un kéfier. Dans une main un fusil, dans l'autre un rameau d'olivier. On m'a fait croire que la paix était possible. J'aurais dû m'écouter puis me faire sauter au milieu du G8. J'ai vécu dans le maquis sur un sentier lumineux. C'est loin des sales profits, des sorts bitumineux. Pour me financer, des fois j'ai oublié mes convictions. J'ai vécu de la drogue, du vol ou de l'extorsion. Mais quand l'argent étouffait ma conscience, je renaissais comme par hasard dans la maison de celui que j'exploitais. Face à une réaction, face à tout ce qui m'écœure. Puis l'homme étant ce qu'il est, je supporte jamais le vainqueur. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant encore plus fort que hier. Aujourd'hui, c'est au plus de liberté qu'il y a 1000 ans. C'est que j'ai pas vraiment laissé le choix aux dirigeants. C'est que je suis mort des milliards de fois dans l'indifférence. Même parfois, vous étiez complice par votre silence. J'ai fait face à mon destin, fièrement comme un apache. Quand on me tirait dessus de Saint-Denis à Saint-Eustache. J'ai jamais hésité à poser des bombes. J'en ai même posté dans les boîtes à mal de Westmount. J'ai toujours pris parti pour les enfants des favelas. On m'a appelé Gandhi, Nasser ou Mandela. J'ai écrit ce que je pensais sans demander l'avis du pape. J'ai écrit la terre est ronde comme j'ai écrit du rap. Sur un beat d'ordinateur, j'ai vomi toute ma colère dans un rôle d'agitateur que la police tolère. J'ai jamais eu peur d'affirmer mes opinions. Je suis conscient que ma fonction première, c'est de prendre position. Maintenant, tu vois des clowns, mais ils sont pas de mon clan. Le gros, les gars se prennent pour moi, mais ils ont pas mon cran. Ils sont faciles à reconnaître, ils font des feats ensemble. Moi, j'ai toujours envie de réduire leur carrière ensemble. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant encore plus fort que hier. Mais
Voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et je vous cite que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Donc je reviens directement avec mon invité d'aujourd'hui, Kenly Fontaine, pour poursuivre un petit peu votre témoignage. Vous dites que ça veut dire que vous, après en 2008, si je ne me trompe pas, vous êtes allé votre mère ou vous avez encore mineur à l'EVAC. Alors, vous avez fait une demande à l'EVAC pour une indemnisation pour les victimes de crimes, d'actes de crime.
Acte criminel.
Et vous avez, selon le rapport des policiers ou de l'enquêteur en question, il est mentionné comme quoi vous êtes un individu que la police relie à la vente de stupéfiants dans le secteur nord de Montréal. Alors, vous avez 16 ans, est-ce que vous vendez des stupéfiants?
Non.
Hein?
Non.
Et vous n'avez pas de casier
dans le secteur
non plus là-dessus.
Non, monsieur.
Non. Donc vous n'avez pas pour vous, parce que vous êtes un homme de couleur qui vous ont automatiquement relié au Montréal Nord, c'est ça exactement?
Exactement.
C'est ça. Mais vous dites, vous n'êtes jamais allé à, vous connaissez pas, vous vivez pas à Montréal Nord, vous
aucun
habitez
lien
au plateau Montréal.
À Montréal Nord.
Vous n'avez aucun lien.
Exactement.
Et dans le rapport, d'ailleurs, là, parce que c'est un petit peu traumatisant, parce que quand même dans l'EVAC, qui vont rejeter la demande.
À cause du rapport.
À cause du rapport
de police.
Police. Hein?
De oui. M. Simpson.
Exactement,
Monsieur
à cause
Simpson.
Du rapport de l'enquêteur Simpson.
Qui a bâclé l'enquête.
Effectivement.
Mais je reviens un petit peu toujours à votre histoire, M. Kelly Fontaine. Ça veut dire, vous, tout ce temps-là, vous disiez, j'avais 16 ans, je ne peux pas, il n'y avait personne qui peut m'appuyer, qui peut faire les démarches à ma place et tout. Ma mère, elle était complètement la pauvre, elle vivait dans l'ignorance et tout, elle était hors d'elle et elle essayait juste de, c'est-à-dire essayer de
prendre soin de
nous et ses enfants.
Exactement.
Et tout. Alors, vous restez, vous prenez, je veux savoir pourquoi vous avez pris aussi de temps, parce qu'on va écouter, il y avait un enregistrement où vous avez appelé l'enquêteur hier pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans mon dossier, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez pris 5 ans pour demander?
Vous voyez, c'est pas facile à 16 ans de se faire tirer, de réaliser vraiment qu'est-ce qui se passe.
Pour vous, aujourd'hui, vous avez 21 ans et vous n'avez pas pu, vous n'avez pas... C'est pas une question de courage, mais vous n'avez pas réalisé
l'ampleur de mes blessures.
De l'ampleur de mes blessures.
Ce qui m'importait, c'est de survivre à ce qui m'est arrivé.
Oui, oui. Alors écoutez, chers auditeurs, chers auditeurs, je vais vous faire écouter maintenant un passage dans notre vue que M. Kenny Fontaine a fait avec l'enquêteur Donald Simpson. Et il a fait hier, vers 2h. Ben, écoutez, après 5 ans, qu'est-ce que l'enquêteur, il va lui répondre. On arrive, je sais pas si on arrive à écouter, je fais la technicienne de son. Donc, c'est pas excellent. Malheureusement, la technicienne de son, elle fait signe comme quoi le son. On va essayer de.
Parce que c'est pris sur un cellulaire, là.
Oui, parce que c'est pris sur un cellulaire. Ouais. De toute façon, c'est vraiment décourageant d'entendre l'enquêteur qui dit sincèrement à Kelly. Il vous dit quoi? Vous l'avez posé la question, qu'est-ce que vous avez fait dans mon dossier?
Exactement. Il répond que mon dossier. Qui l'a fermé mon dossier?
Celui qui a fermé votre dossier.
Exactement.
Et vous lui répondez pourquoi?
Pourquoi vous avez fermé mon dossier?
Il a bâclé l'enquête, il a fermé le dossier, puis s'est débarrassé de tout, il s'est levé les mains.
Exactement. Il me répond que il n'y a eu personne d'arrêté et qu'il n'y a eu, il y a pas eu de suspect. Donc voici pourquoi il a fermé mon dossier.
Ouais.
Et je lui réponds comme qu'il n'y a pas eu de. Il me dit qu'il n'a pas de preuves. Qu'il n'a pas d'aucun lien, aucun.
Donc, parce qu'il est incapable de faire une enquête.
Exactement.
À ce moment-là, il rejette votre corps.
Exactement.
Il la ferme.
Et je lui réponds que.
Oui.
Il y a 2 balles qui se sont retrouvées à terre. Pourquoi vous ne l'avez pas ramassé, ces balles-là?
Si moi, j'arrive pas à identifier mon agresseur, les balles sûrement peuvent vous amener. D'après tout ce que je vois à la télévision, des enquêtes, Canal D, ils sont capables de retrouver. Mais il n'a pas voulu faire sa job d'enquêteur.
Oui. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que c'est ça ce qui vous dérange finalement. Ça veut dire que vous pensez que les jeunes ou les citoyens ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un d'autre, on peut faire tout pour retracer l'agresseur. Alors, dans votre cas, vous, c'est une histoire d'un dossier classé, et remis de côté. C'est ça, c'est vous reprochez aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Il m'affirme qu'il a fermé. Il m'affirme qu'il a fermé mon dossier, ouais. Tandis que celui qui m'a fait ce crime-là, celui qui m'a tiré dessus, ouais. Se promène encore dans les rues de Montréal.
Et peut-être ouais. Il va en tirer d'autres, et peut-être c'est lui peut-être qui fait le trouble dans le métro.
Mais
peut-être.
Excusez-moi.
Peut-être.
Non, mais là.
Peut-être. Ouais. Je ne dis pas que c'est
pourtant, lui. Pourtant. Ouais. Pourtant, la personne qui a appelé la police quand je me suis fait tirer, oui. C'est une madame qui a ouvert la porte, qui m'a vu à terre.
Oui, mais est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a vu la personne? Mais de toute façon, elle a été cagoulée.
Elle s'est réfugiée dans une ruelle et cette dame a
mais,
appelé.
Mais vous, parce que je vois aussi que dans la parade photo que l'enquêteur vous a amené devant vous, il n'y avait pas les deux suspects que vous avez...
Oui.
Il n'y avait pas.
Il n'y avait pas les deux suspects que j'ai alors, pu lui dire que, hey, j'ai identifié deux suspects. Oui. Il est venu sur le lit d'hôpital.
Oui.
Après mon opération, quelques heures après, il est venu me demander. Oh, j'ai pas perdu conscience. Tout ce qui m'est arrivé, je le savais.
Oui.
Et il m'a demandé, peux-tu identifier quelqu'un? Je lui ai répondu, oui. Il y avait deux monsieur. Celui-là portait des longues tresses avec une longue chaîne.
Vous avez donné une description.
J'ai donné une description de la couleur des gens et la façon qu'il était habillé même.
Oui.
Il n'a pas pris compte de ma description, monsieur. Oui. Il n'a pas pris compte de ça.
Ils étaient deux, ces personnes-là.
Exactement.
L'autre personne était comment?
L'autre était un jeune homme noir,
ouais.
De taille moyenne. L'autre était plus maigrichon, le blanc était plus maigrichon, avec de longues tresses, ouais. Plus une chaîne.
Ouais. Ouais.
Mais il n'a pas pris compte de ça.
Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que si l'enquêteur en question, il a pris ça vraiment le dossier à cœur, et puis il a fait repousser un petit peu l'enquête plus profondément, peut-être il y aura probablement des arrestations.
J'ai compris, tout de suite, j'ai compris quelque chose. Regardez ma façon de raisonner.
Ouais.
Vu que vous avez été attaqué par une gang de rue de la Chine, vous êtes une gang de rue automatiquement.
Ben
on vous a classé comme ça.
Ben
et merci pour les personnes qui peuvent être agressées.
Ouais, c'est ça.
Monsieur les agents.
Non mais Roland, c'est exactement c'est ça. C'était arrivé parce
c'est clair
que
et net.
Directement on lui relie. On le relie tout de suite
à une gang
de rue.
Ah ouais.
Et alors que lui, il ne connaissait pas Montréal-Nord directement parce que c'est un homme de couleur, donc il est de Montréal-Nord.
C'est
donc
ça.
Ils vont des
alors qu'il n'est pas de
systématiquement. Moi, il est devenu
un... Je vivais au plateau Mont-Royal.
Et voilà.
J'ai fait mon primaire là et mon secondaire là.
Ouais, ouais.
Et voilà.
Et puis, il me
on
m'associe à,
ah ouais.
À secteur nord, à secteur nord. D'après le rapport, je l'ai là sur noir et blanc. D'après le rapport que je suis associé à des gens nord de la ville,
ouais.
tout se relie au secteur nord. Et puis, il ne parle pas du. Il parle plus du secteur nord que de où je me suis fait tirer.
Ouais, ouais.
Je me fais tirer à la Chine. On entend que ça juste une fois, mais on entend 3-4 fois. Oh, c'est le secteur nord, dans le nord, dans le nord. Mais de quoi tu parles, monsieur l'enquêteur Donald Simpson? Je comprends pas, moi.
Il veut régler, il veut bâcler son enquête, il arrange ça de façon à mettre tout le monde coupable. Et puis...
Pourtant, ils le savent très bien que mon adresse, c'est 4430 la rue Laval, c'est sur le plateau Mont-Royal, ça.
Oui.
Et
oh my God.
Depuis toute votre jeunesse, vous avez habité à Plateau Mont-Royal.
Toute ma jeunesse, j'ai vécu là-bas.
Et d'un seul coup, ça, je comprends. Frustration par rapport au
relief.
Maintenant,
négligence.
Je veux savoir, donc, vous, vous arrêtez vos études au secondaire 3, c'est ça, j'ai bien compris. Et après ça, une fois vous êtes remis un petit peu, la santé un petit peu beaucoup mieux, vous allez faire une formation, c'est ça?
Exactement.
Et vous travaillez.
Non, je retourne à l'école.
Oui.
En 2008.
Oui.
En 2008, je retourne à l'école parce que ma mère ne travaille plus.
Elle a arrêté de travailler. Ouais. Ah, j'imagine
je ne vis pas avec mon père. Depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais connu un homme étant père pour moi.
Ouais. C'est la mère qui prenait tout le fardeau sur les épaules. Oui.
Tout.
Puis, vous avez souhaité étudier, avoir un travail pour récompenser votre mère, quelque
exactement,
part.
Exactement.
Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas parce que j'ai des flashbacks.
Ouais.
Si en sortant de l'école, je me fais tirer encore,
ouais.
qui m'a fait ça?
Ouais. Et encore plus que ça, vous avez été allé quand même, vous avez travaillé, quand même essayé selon, tenté de travailler, mais ils vous ont arrêté. Pourquoi? Ils vous ont demandé
l'état de santé.
Parce que vous avez voulu soulever quelque chose de poids et votre dos, il vous fait mal, c'est ça?
Exactement.
Il ne faut pas oublier qu'il a un projectile encore dans le dos là, qui se promène.
Il est quasiment handicapé.
Voilà. C'est un handicap total. Ça, là. C'est un handicap qui peut,
vous allez vivre
d'un moment
ça.
À l'autre, le paralyser complètement. Ouais, ça peut arriver qu'il va être paralysé complètement. Ouais. Et si les médecins tentent une opération, ils vont le rendre paralysé sur une chaise roulante. Ouais. Définitivement. Il va être une charge encore pour sa mère, plus haute encore que ce que c'est.
On laisse un petit peu Calais se reposer un petit peu. Je retourne un petit peu vers Olivier, qui a 20 ans aujourd'hui. Olivier aussi, on sait qu'il était aussi touché par cette événement parce qu'il a arrêté ses études aussi. Comme votre mère, elle n'est pas parmi nous aujourd'hui, comment vous pouvez témoigner à la place de votre mère? Comment vous avez observé cette dégradation? Comment votre mère, elle a pris tout ça?
Écoute, elle a pris ça avec courage.
Oui, elle était courageuse.
Elle était très courageuse, on la félicite et je l'aime encore.
Oui, j'imagine.
Beaucoup.
C'est-à-dire pour vous, votre mère, elle ne vous a pas abandonné facilement. Elle a continué le combat. Elle a toujours tout fait
jusqu'au fond, jusqu'au bout, sans jamais arrêter.
Est-ce qu'elle vous a encouragé de retourner à l'école et d'étudier?
Oui, elle a dit vas-y.
Cette épreuve.
Oui, elle a dit vas-y, retourne. J'ai essayé.
Mais vous,
ça n'a pas fonctionné. J'ai eu la peur. Je marche dans les rues. Je tourne à chaque seconde ma tête.
Vous pensez que vous aussi peuvent vous retirer?
Oui, parce que je ressemble beaucoup à mon frère.
C'est le choc.
Et ça donne beaucoup de stress à la maman.
Oui.
Alors,
ça a détruit quasiment le foyer.
C'est la famille, oui. C'est la famille.
Ça a détruit la famille, le foyer, puis ça a mis des problèmes.
Oui.
Ça, c'est écoutez, complètement... j'aimerais parler pour que le monde écoute ce que j'ai à dire.
Oui, Kali.
J'aimerais ça savoir pourquoi l'enquêteur...
Dans le dossier?
Quand je lui ai appelé, a nié...
Hier?
Ailleurs, nier.
Et on a la conversation, mais malheureusement, on n'arrive pas à la.
À nier le fait qu'il ne se rappelle plus de mon cas.
Ben ça, c'est possible, 5 ans après.
Mais quand même.
Je lui ai. Il nie ça, mais il me dit.
Il reconnaît en même temps.
Il reconnaît en même temps qu'il est venu me voir chez moi.
Il
se rappelle qu'il est venu me voir à l'hôpital. Il se rappelle qu'il est venu me voir chez moi. Mais il ne se rappelle pas que je me suis fait tirer. Il ne se rappelle pas s'ils ont ramassé des balles ou pas.
Ouais. Mais lui, ça ne lui intéresse pas. Il ne se rappelle même pas que vous avez.
Et puis ça
il se rappelle de ce qu'il veut se rappeler.
Et puis ça a été nommé, ça, en plus de ça, un grade supérieur.
Superviseur.
Moi, j'appelle, je le contacte, on me dit que c'est, c'est le superviseur Donald. Vous voyez, moi, ma mère n'était pas au courant de la justice. Ma mère ne connaît pas ses droits. Ouais. Ma mère n'a jamais eu affaire avec la justice, avec moi, vous voyez.
Et vous êtes
depuis que le jour où je me suis fait tirer, tout... Ça commence à rentrer. Ils m'ont mis dans un système que, moi je suis un ceci, je suis un cela, je fais partie de ceci, je fais partie de cela.
Excusez-moi, il y a une discrimination raciale. On dit, lui, là, tu sais, on va le tasser sur le bord, on va régler son affaire, on va classer l'affaire.
Et le monsieur ne peut pas nier qu'il ne m'a pas dit ça, c'est écrit noir sur blanc.
Parce que
j'ai été refusé par IVA parce que j'ai essayé de demander de l'aide. Et puis on me refuse à cause que.
De son rapport.
De rapport. C'est marqué Donald Sampson noir sur blanc que je suis ce qui m'est arrivé, c'est un règlement de compte et c'est de ma faute.
Alors que tu avais 16 ans.
Catégorisé.
Wow. Voilà.
C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Hein? Et voilà. Alors, on a des policiers qui sont incapables de pouvoir régler les enquêtes.
Alors, excuse-moi, Roland, juste, on va passer à une pause musicale aussi. On va revenir peut-être pour conclure un petit peu. La situation.
Oh, you y'a tellement d'avocats qui puent assez de méchants. Y'a tellement de prophètes qui puent assez de croyants. Y'a tellement de bons, le monde a l'odeur du sang. Y'a tellement de fonctionnaires, pourtant y'a rien qui fonctionne. Y'a tellement de fonctionnaires, pourtant y'a rien qui fonctionne. Rien pantoute, rien pantoute. Oh, y'a tellement d'autoroutes, pourtant tout est à la déroute. De New York à Bagdad, du Congo à Beyrouth. Tout le monde répond à tout, mais ne font que semer le doute. C'est écrit gros dans le ciel, l'humanité fait banqueroute. C'est écrit gros dans le ciel. Faut qu'on vire de bord, faut qu'on vire de bord. On me dit sois bon envers Dieu, mais ton voisin c'est un pouilleux. Il est peut-être dangereux, il est peut-être.
C'est vous qui avez fermé l'enquête, monsieur Donald.
C'est bon?
Vous avez fait
c'est bon, on va passer.
Parce que je n'avais pas de suspect dans votre enquête, monsieur. Vous n'avez pas de suspect sur le. Vous prévoyez de fermer l'enquête parce que vous n'avez pas de suspect. Oui, mais les enquêtes sont toujours ouvertes. Vous venez de me dire que vous l'avez fermé. Comment ça se fait que maintenant vous dites que vous l'avez. Ils sont toujours ouverts. Si tu viens de me dire que.
Non, ce que je veux dire, c'est que je vais vous expliquer. Durant l'enquête est fermée, inactive pour le moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête qui se poursuit dans ce dossier-là. Sauf que l'enquête existe toujours. On peut la réactiver à n'importe quel moment si on avait une piste qui pourrait nous permettre de la gestion.
Ok, mais les deux balles qui étaient à terre là, quand je me suis fait tirer. C'était pas assez une piste valable pour vous?
Les deux de quoi?
Les deux balles, pas les deux gars, les deux balles. J'ai pris des balles. Les deux balles qui étaient à terre. Parce que il y a une balle dans mes artères. Mais j'ai pris une balle dans les bras. La balle dans le bras qui s'est retrouvée à terre. Pourquoi vous n'avez pas ramassé cette balle-là?
Je me souviens pas que c'est aussi, monsieur.
Vous m'avez
devant moi.
Mais c'est vous qui avez bâti mon dossier. Comment ça vous vous souvenez pas?
Mais monsieur, vous savez pas combien de dossiers j'ai fait depuis que je tourne dans lequel?
Combien de dossiers de chèques?
Donc je peux pas vous souvenir de chaque dossier, monsieur.
Ah ouais? Des milliers de gars de 16 ans qui se font tirer?
Des milliers de dossiers, oui, j'en ai fait des milliers.
Mais moi, je me demande juste que comment ça se fait que vous avez fermé un dossier tandis qu'il y a un tireur qui vient de me tirer, qui marche encore dans les rues. Et que
pourquoi vous demandez ça, monsieur Fontaine, 5 ans plus tard, est-ce que je peux savoir?
Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, je ne savais pas ce qui m'arrivait.
Okay.
Et puis maintenant que la balle est dans mon dos, et puis que chaque jour je fais des cauchemars, je me lève le soir, puis dans la nuit en me disant « qu'est-ce qui se passe? » Et puis, j'essaye. Pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas venu me voir? Pourquoi vous n'êtes pas...
Je suis allé vous voir, monsieur, à votre domicile, en plus.
À combien de fois?
Je suis allé au moins une fois à ma séance, puis je suis allé plus que ça, comme je vous dis, je n'ai pas le dossier devant moi.
Non, vous le saviez, vous le saviez, monsieur.
Je suis allé au moins une fois, vous racontez un peu ça.
Juste une fois? Sur la tentative de meurtre de cette envergure, c'est juste une fois que vous êtes venu me voir.
Au moins une fois, comme je vous dis, je n'ai pas le dossier devant moi, prétendu.
Pour moi, j'ai juste une question, monsieur.
Oui.
La balle qui est dans mon dos, là,
oui.
Qui va rester dans mon dos à vie, je vais mourir avec, là.
Oui.
Ça vaut-tu la peine de fermer un dossier pour ça?
Mais monsieur, on ne peut pas garder un dossier ouvert quand on n'a pas suspect à rien.
Ok. Pourquoi vous n'avez pas essayé de trouver les balles qui étaient à terre, monsieur?
Monsieur, je ne me souviens pas assez du dossier. Comme je vous ai fait, je me souviens devant le dossier pour savoir s'il y a eu des balles de récupérer le dossier. Je ne m'en souviens pas.
Allez,
ça fait 5 ans de ça.
Oh, ça fait 5 ans de ça. Vous ne vous souvenez pas?
Oh, reviens sur la question. Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous avez peut-être entendu le témoignage ou l'entrevue que M. Calais Fontaine a eu avec son superviseur, l'enquêteur dans le dossier, M. Donald Simpson. Alors, vous avez compris un petit peu comment... il y a une contradiction entre je ferme le dossier, non, le dossier n'est pas fermé encore. Vous avez aussi vu l'intervention, l'interrogation de Ken Lee sur le fait comme quoi c'est une balle qui loge dans son dos dans le, pour le restant de sa vie et tout, et comment on peut justement, la question, il a bien, très bien posé la question, comment on peut fermer un dossier alors qu'une balle va continuer à loger le restant de sa vie.
Il y a une victime, on ne peut pas fermer un dossier comme ça d'une victime.
Alors vous, vous avez, je sens aujourd'hui, vous êtes prêt à aller en avant pour ça. Pensez-vous pas que c'est un petit peu trop tard pour vous, M. Canley, aujourd'hui?
Il n'y a rien de qui est trop tard. Il n'y a rien qui est trop tard.
Surtout qu'il est majeur maintenant, et puis il a le droit de faire ce qui lui est dû, en définitive.
Ouais. Rien de trop tard. Ils n'ont pas arrêté le suspect. Pourquoi qu'ils vont arrêter mon dossier?
Voilà. Vous, à votre, c'est-à-dire ce que
ils n'ont pas arrêté le gars qui m'a causé ce crime-là, qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre leur temps pour chercher la balle.
Exactement,
ils n'ont pas pris, ils n'ont pas fait de périmètre pour chercher une balle. Ils auraient attendu quoi? Que je meure à l'hôpital pour que là, ils reviennent faire un périmètre pour chercher. Mais c'est quoi?
C'est comment ils ont traité
c'est
le
quoi, c'est quoi ça? C'est
un système pourri.
C'est de la négligence.
Après, c'est que je communique avec pour qu'il m'avoue de sa propre bouche qu'il a fermé le dossier. Ouais. Et après ça, me dit qu'il non, il ne l'a pas fermé. Oh, je sais. Mais c'est quoi? C'est quoi? J'arrive pas à comprendre.
La pure négligence.
Ah ouais. J'arrive pas à comprendre, moi, ce qui se passe.
Et puis on lui donne un grade supérieur en plus.
Ah oui, superviseur.
Oui, il faut.
Donc pour vous restez toujours sur le fait comme quoi c'est une enquête bâclée.
Exactement. Ouais. Exactement.
Ouais. Bâclée, exactement. Alors qu'il s'agit vraiment d'une.
Surtout la Chine. La Chine, c'est pas une grande ville, attention. Ouais. La Chine, moi, telle que je connais la Chine, la rue Provo, la 32e avenue, tout ce qui s'ensuit, je vais vous dire une chose, c'est facile de retracer des gains.
Non, c'est mais, très facile de retracer mais Roland, il s'agit d'une tentative de meurtre.
Oui, mais une gaine de rue dans la Chine, c'est facile à détecter. Je m'excuse. J'ai vécu assez longtemps là.
Alors on sait aussi qu'il y a des dossiers qui peuvent rester ouverts toute une vie pour trouver et pour retracer l'agresseur ou bien l'accusé.
Il faut, puis en plus de ça, la victime n'a pas de casier judiciaire. Peut-être que l'autre a un casier judiciaire. Absolument. Et de la façon dont il recherche, il y a de la négligence.
Vous, maintenant, vous avez essayé de tout faire pour un petit peu vous redémarrer l'enquête de
exactement,
nouveau.
Ouais, exactement,
c'est ça?
Exactement. Le plus que je peux faire, je demande de l'aide de tout le monde. Ceux qui peuvent m'appuyer pour m'aider à résoudre ce problème-là et à faire. Je demande une autre enquête aussi, à vérifier la véracité de l'enquêteur sur mon dossier. Où est-ce qu'il a fait l'effort là-dedans? Moi, j'ai le papier de refus de tout. Et puis, dans le papier de refus, on explique tout, mais sauf son application à l'enquêteur, dans mon cas.
Ouais.
On dit tout sauf son application. Quel a été son effort à l'enquêteur de venir me voir une fois à l'hôpital, puis une fois chez moi, en 5 ans?
Alors que vous avez eu 16 ans.
Et puis après ça, pour me dire que, oh non, il a fermé ton dossier. Ouais. Pourtant, je t'ai dit que, voici qui, je te l'ai dit, à l'hôpital, qui m'a fait, qui était là, qui j'ai pu remarquer, qui j'ai identifié là-dedans, et puis tu me dis que j'ai pas identifié personne. Ma mère était là quand je lui ai dit ça. Ma soeur, ma cousine était là. Ma tante était là quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit ça. Ils étaient tous témoins. Non, ils n'ont pas pris compte à ça.
Pour moi,
je suis qu'une merde.
Il y a une chose qui est étonnante là-dedans. Comment ça se fait que la police de la Chine n'a pas enquêté là-dessus? C'est sur le territoire de la Chine, ça s'est passé. Et peut-être qu'eux, ils peuvent retracer automatiquement des gains qu'ils ont dans la Chine.
Ça, c'est à eux autres de savoir ça.
Mais il faudrait faire appel peut-être à notre cher maire de la Chine là, pour qu'il remuer un peu sa police. Alors, je trouve que les maires devraient se remuer un peu pour brasser un peu leur
police. On demande
de
l'aide de tout le monde, tu vois.
Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des témoins? C'est la dernière question, peut-être je vous poserai. Est-ce qu'il y avait des témoins?
Il y avait des témoins.
Qu'ils ont vu au moins le groupe et qu'ils ont pu, que l'enquêteur ait négligé aussi d'aller rencontrer ces témoins-là pour retracer quelques pistes qui peuvent l'amener à... Vous comprenez? Qui peuvent l'amener vers l'accusé. Il n'y avait pas. Avez-vous un dernier mot à dire aujourd'hui aux auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui? Parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui vivent un petit peu le même cas, peut-être d'une manière différente, mais une négligence de la part de l'autorité.
De ne jamais laisser le combat, de toujours se combattre.
Ils savent qu'ils ont commis une erreur en ce moment. Ils savent qu'ils ont fait de quoi. Ils savent qu'ils m'ont négligé.
Ouais.
Et ils savent qu'ils n'ont pas fait le travail. Parce que je vais vous faire juste un petit résumé.
Rapidement, oui.
Rapidement. Le docteur qui a opéré quelqu'un sur sa table d'hôpital,
Il voit pas un bandit devant lui. Il voit pas un gang de rue devant lui. Il voit pas un criminel. Il voit pas un tueur. Il voit un être humain sur la table. Et son devoir, c'est de le garder en vie. Parce que son devoir, c'est de le mettre en vie, de continuer à y donner espoir de vie. Il a pas à juger sur la personne. Il a pas à juger la personne. Oh, je vais pas travailler sur lui parce que lui, c'est un bandit. Oh, je peux. C'est pas son rôle au docteur. Le docteur, son rôle, c'est de garder en vie. Et je remercie ce docteur-là. Alors que qui a pu faire ça pour moi.
Mais Calice, excuse-moi, mais alors que l'enquêteur, il n'a pas fait son travail, c'est
non,
ça?
Non, il n'a pas fait son travail.
Il a joué les accusations, l'enquêteur.
L'enquêteur a préféré me dire que oh, ce qui m'arrive, c'est de ma faute.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est écrit là, noir sur blanc.
Alors un enquêteur, c'est pas un juge non plus pour vous juger.
C'est pas un juge pour me juger.
Oui, ouais, je comprends. Ben écoutez, je pense que avez-vous quelque chose à dire, Olivier, comme dernier mot, non? À part le regret que vous avez, l'amertume que je sens, hein? Il n'y avait rien. Ok, voilà. Donc nous arrivons bien sûr au terme de notre émission, chères auditrices, chers auditeurs, et nous souhaitons remercier ces deux jeunes frères. Je parle de Monsieur Calé Fontaine et son frère Olivier. Ils ont 21 ans et 20 ans. De leur témoignage, de leur participation sur ce plateau. Oui.
Et je veux encore remercier le docteur qui m'a donné espoir de vivre encore.
C'est quoi le nom de
médecin? Je ne me rappelle plus, mais je veux juste remercier le docteur à l'hôpital général en 2007 d'avoir opéré le jeune homme Kenley Fontaine. Oui. Merci, monsieur.
Âgé de 16 ans.
Oui. Ouais. Alors, donc, je remercie comme d'habitude mon collègue Roland Cazès pour sa contribution permanente et je tourne directement vers Mme Suzanne Chartrand qui nous soutient avec son sourire le long de cette émission. On dit merci à Mme Suzanne Chartrand pour son soutien technique à Radio Centre-Ville 102.3 FM. Merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine avec un autre sujet d'escalade de l'abus de l'autorité et de l'injustice ici au Québec. Sur ça, je vous dis au revoir.
L'envie, peu importe les ennuis, notre amour survivrait pas. Une bonne nuit d'amour nous suffirait, mais qui aurait cru qu'on se parlerait plus? Que sur notre belle parade, un jour il n'aurait plus. Que tu verrais plus en moi cet homme qui t'a dit autrefois. Et pour m'en parler, j'aurais même voulu le voir.
Je me suis dit, je saurais mieux sans toi. Que ça ne marcherait pas. Faudrait mieux que l'on arrête là. Plus me être seule que mal accompagnée. Je l'ai toujours pensé. J'ai besoin que tu comprennes que.
Stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles,
mardi, minuit 30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Le dimanche 20 mai à 14h, le cimetière de Laval et Magnus Poirier vous invitent à venir accueillir le reliquaire de Sainte Maria Goretti lors d'une messe solennelle qui aura lieu au cimetière de Laval. C'est la toute première fois que le reliquaire de Sainte Maria Goretti quittera le sol italien. De plus, vous pourrez assister à l'inauguration de la chapelle Sainte Maria Goretti et du nouveau mausolée Porta del Paradiso. Le cimetière de Laval est situé dans le quartier Saint-François à Laval, à quelques minutes du nouveau pont de la 25. Pour plus d'informations, visitez le www.cimetierelaval.com.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.